Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Pobody Oulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Bruno Bayala.
Tabaski 2021, les fidèles musulmans ont crié ce matin pour la paix et la sécurité au Burkina Faso, notamment pour les zones en proie à l'insécurité. À la place de la nation de la capitale, ils étaient nombreux à l'écoute du message de l'imam. Tentative d'assassinat au couteau contre le président de la transition du Mali. Deux personnes ont tenté ce matin de poignarder le colonel Assimi Goïta durant le rite musulman de la fête de la Tabaski, la grande mosquée de Bamako. Toujours fête de la Tabaski, célébrée ce jour qui peut sacrifier une bête. On en parle avec l'imam Ismaël Tiendrebego du cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Bonsoir à tous et bienvenue à l'Instat du Burkina Faso. La communauté musulmane malienne a célébré la fête de la Tabaski ce matin. Une fête qui a été perturbée par une tentative d'assassinat du président malien. Après la prière et le sermon de l'imam, deux personnes ont tenté de poignarder le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à la grande mosquée de Bamako. C'est après la prière et le sermon de l'imam que le jeune a tenté de poignarder Assimi Goïta de dos, mais c'est une autre personne qui a été blessée, a confirmé Latus Touré, régisseur de la mosquée. Les services du président malien ont rassuré que le président est sain et sauf et que les agresseurs ont été arrêtés. Pendant ce temps, à Ouagadougou, les fidèles musulmans ont crié à la place de la nation, dont la quiétude. Ils ont demandé à Dieu la paix et la sécurité au Burkina Faso, notamment dans les régions victimes des attaques terroristes. Dans son message, l'imam a invité les musulmans à toujours cultiver la vision sociale. Écoutons quelques fidèles musulmans au micro de Chalda.
Un sentiment de grande satisfaction parce que la prière s'est déroulée dans une bonne et grande ambiance. Et nous avons tenu à organiser la cérémonie, comme il se doit, et vous-même vous l'avez constaté, toutes les grandes autorités du pays étaient présentes. Et je pense les principales leçons de cette fête de la célébration de la Tabaski, c'est le symbole du sacrifice. Et nous avons vécu tout de suite ce que l'imam a fait comme prêche. Ce sont des prêches qui montrent que tout musulman doit se soumettre à la volonté de Dieu, doit se soumettre à l'islam et accepter les recommandations divines. Et c'est ce que nous avons vu à travers justement les prêches de l'imam. Et c'est un symbole très fort parce que nous avons vu que nous en tant que musulmans, nous devons nous mettre quotidiennement en cause pour voir est-ce que ce que nous faisons, c'est quelque chose qui nous permet de nous unir.
Il faut le rappeler aussi, il était présent aux côtés des musulmans au Burkina Faso, le ministre de la Réconciliation nationale et celui de l'administration territoriale. L'Église catholique était aussi présente à travers le nonce apostolique Michael Crotty. Et que signifie exactement l'Aïd el-Kébir pour un musulman qui doit sacrifier une bête? Élément de réponse avec l'imam Ismaël Tiendrebego du cercle d'études, des recherches et de formation islamique que nous écoutons.
C'est une fête à l'occasion de laquelle nous sacrifions un animal, un mouton, une chèvre, un bœuf, un chameau, et pour rappeler le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam, quand il s'est vu en rêve en train d'égorger son enfant et qu'il a rendu véridique ce rêve-là. Au moment où il allait passer à l'acte, Dieu a racheté la vie de son enfant Ismaïl par un bélier considérable, et c'est à l'honneur de ce monothéisme et ce monothéiste-là que nous refaisons en fait l'acte de sacrifice. Toute personne musulmane pubère qui a les moyens d'acheter la bête, normalement devrait sacrifier la bête. Donc, aussi bien la femme que l'homme. Donc islamiquement, rien n'interdit à la femme d'égorger elle-même son animal, c'est pas une interdiction. Maintenant, si pour des raisons d'émotion, elle ne peut pas le faire, elle peut demander à quelqu'un d'égorger en son nom, et là on va lui demander d'assister, et si elle le peut toujours d'un point de vue émotionnel à l'égorgement de l'animal, qui sera divisé pour être donné pour partie aux indigents et aux pauvres, notamment aux personnes déplacées internes actuellement que nous avons.
L'imam Ismaël Tiendrebego du cercle d'études et des recherches de formation islamique est l'invité de la rédaction. Entretien à suivre donc en fin de journal. Un mois et demi après les attaques terroristes de Sol An, le ministre de la Sécurité s'est rendu dans cette localité qui pense encore ses plaies. Une visite pour rassurer les populations des mesures prises, pour assurer leur sécurité, mais aussi pour écouter et galvaniser les hommes du tout nouveau détachement de gendarmerie de Sol An. Les explications de Gilles Dasda.
Sur les lieux du pire massacre dû à des attaques terroristes au Burkina, le ministre de la Sécurité vient à la rencontre des populations. Durement éprouvées par le drame de juin dernier, Sol An tente peu à peu de renaître de ses cendres. Peu à peu aussi, les populations qui avaient jadis fui reviennent dans leur village et le chef de Sol An n'est pas en reste. Cependant, pour plus de quiétude ici, des priorités voire des urgences demeurent encore. Youssoufi Sow, premier adjoint au maire de Sol An.
Donc on nous rassure vraiment, notre gendarmerie est en place. De deux, ce qui animait au niveau de Sol An aussi, c'est le site d'ordre de Sol An. C'est ça qui animait pour pouvoir rattraper facilement pour que les activités recommencent. Cette année, il n'y a personne qui a cultivé. Ils ont appris que si tu pars au champ, les gens, on les enlève dans les champs. Donc personne n'a cultivé. Toujours on veut l'appui de l'État. Voilà la population qui est derrière nous. Vraiment, il y a une amélioration avec la sécurité qui est sur le terrain.
Cette sécurité sur le terrain, ce sont ces hommes qui l'assurent. Les hommes du détachement de gendarmerie de Sol An. Ils sont là il y a peu, une semaine à peine, et déjà la confiance renaît. Tout un symbole. Maxime Koné, ministre de la Sécurité.
Un symbole très fort du retour de l'État, de la résilience du peuple et surtout de la combativité de nos forces. Nous sommes résilients. L'État ne peut pas accepter que ce poumon économique de la province sombre. Et je crois que avec les hommes que nous avons vus sur le terrain, il y a un motif d'avoir de l'espoir.
Et le ministre de recueillir les doléances des FDS, mais aussi des VDP, avec promesse de trouver les solutions. Avant cette étape, une halte et non des moindres, celle du lieu de sépulture des victimes des attaques des 4 et 5 juin dernier. Ce fut un moment de silence et de recueillement pour la délégation sur les tombes de ceux qui ont subi cette barbarie.
À présent, le point hebdomadaire de la situation sécuritaire du 12 au 18 juillet dernier. Plusieurs terroristes ont été neutralisés dans des zones d'insécurité. Des soldats burkinabins ont été aussi blessés et du matériel ont été saisis. Les détails avec Mariam Souma.
Au sein du groupement de forces du secteur nord, le 13 juillet, suite à une reconnaissance offensive menée dans les forêts de Toufé et Tougrébouli, on note que des unités du 12e régiment d'infanterie commando RIC ont détruit une base terroriste et neutralisé des dizaines de terroristes. De l'armement, des munitions et du matériel de campement ont été récupérés. Côté ami, on dénombre un VDP tué et 8 soldats blessés. Ensuite, le 14 juillet également, suite à la disparition de 2 VDP lors de l'attaque contre la localité de Naïmoussi, une unité du détachement de Penza a lancé une opération de recherche qui a permis de les retrouver sains et saufs. Et enfin, le 16 juillet, lors d'une mission mixte, 2 engins explosifs improvisés ont explosé respectivement au passage du véhicule militaire et d'une moto dans les environs de Dablo. Bilan, 3 soldats tués, 2 de l'armée de terre et 1 gendarme. 5 blessés, dont 3 militaires et 2 policiers. Au sein du groupement des forces du secteur du centre-est, le 15 juillet, une escorte logistique du 4e escadron de la gendarmerie mobile a été prise à partie dans les environs de Tanwalbougou. La prompte réaction des gendarmes a permis de mettre en déroute les assaillants. À ce niveau, aucune perte n'a été enregistrée. Il faut noter également que du 12 au 18 juillet, les forces armées nationales en coordination avec les autres forces ont appuyé des œufs aux forêts dans une mission d'appurement du parc national Kabore-Tambi. Une centaine de patrouilles, des opérations de bouclage et de fouilles et des ratissages ont été menées. Ces actions ont permis de démanteler des sites d'activités illicites et interpeller des individus suspects remis aux services de police et de gendarmerie pour des investigations. Pour le compte du groupement de forces du secteur ouest et sud, le 12 juillet, suite à l'incursion d'individus armés dans le marché de LN Tira, les unités du 22e RIC ont effectué des patrouilles pour rassurer les populations. D'autres activités ont été également menées. Il s'agit de la sécurisation des travaux d'installation du backbone dans la région de l'Est, la sécurisation des travaux de bitumage de l'axe Dori-Gorom, transport des sujets d'examen et sécurisation des examens scolaires.
Et merci de suivre le journal au palais présidentiel où le président du Faso, Roch Kaboré, a reçu en audience lundi Jean-Luc Mélenchon, député et président de la France insoumise. Candidat à l'élection présidentielle française 2022, Mélenchon s'est entretenu avec le chef de l'État burkinabé sur la question du financement des terroristes, la situation de la COVID-19 dans le monde et le changement climatique. Les détails avec Chalda.
La question sécuritaire au Sahel inquiète l'homme politique français Mélenchon qui éprouve de la compassion envers le Burkina, qui vit le terrorisme depuis 2016. Pour venir à bout de ces bandits armés, il faut forcément savoir la provenance de leur financement, a-t-il souligné Jean-Luc Mélenchon, député français.
Je lui ai dit combien j'étais sceptique sur le caractère religieux des combattants qui, pays par pays, essayent d'effondrer les structures institutionnelles de ces pays et pourquoi je continue à m'inquiéter avant tout de savoir qui les finance et comment on peut se trouver dans une situation où des gens surgis de nulle part arrivent ne manquant jamais de munitions, équipés avec des matériels parfois à force sophistiqués. Et donc la question du financement et des liens internationaux de ces bandes armées se trouve posée. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une action efficace si on ne répond pas aux questions que cela soulève.
L'épreuve douloureuse de la COVID-19 qui a ébranlé et continue de secouer la civilisation contemporaine mérite qu'on s'écoute pour trouver des solutions définitives à cette crise, pense Jean-Luc Mélenchon.
Ensuite, nous avons traité des conséquences de la COVID-19. Je me suis mis à l'écoute des difficultés que rencontre ce gouvernement, cette présidence, comme toutes les présidences et tous les gouvernements du monde, parce que nous sommes confrontés à quelque chose que nous ne connaissons pas et qui a une spécificité, puisqu'elle met en mouvement les croyances profondes des gens, leur méfiance, leurs adhésions, qui est une crise sanitaire. La civilisation contemporaine n'a jamais été soumise à cette épreuve.
Les échanges entre le président Roch Kaboré et Jean-Luc Mélenchon s'achèvent sur la nécessité de protéger l'environnement afin de lutter contre les changements climatiques.
La 11e mandature du bureau consulaire du commerce et de l'industrie du Burkina va prendre fin en 2021. Le ministère en charge du commerce a donc engagé une campagne d'information sur le processus de l'élection consulaire prévue le 14 novembre prochain. Après Ouagadougou, la semaine dernière, la commission d'organisation des élections consulaires était dans la ville de Sia ce lundi. La correspondance à Bobo d'Antoine Boni.
L'élection des membres consulaires est prévue pour le 14 novembre prochain. Et la chambre du commerce de l'industrie du Burkina poursuit sa campagne d'information. À Bobo Dioulasso, le processus de l'élection consulaire et les innovations ont été expliquées aux acteurs du monde économique. Bena Zoguri, président du comité d'organisation des élections consulaires.
Et c'est d'abord le nombre de sièges. Les élections passées, on était à 151. Ben, cette fois-ci, on aura 170 élus qui vont parler au nom du monde des affaires. Donc, c'est pour dire qu'ils seront mieux représentés, les problèmes seront mieux débattus. Alors, il y a aussi la circonscription électorale. Les élections passées, on était limité à la région, mais cette fois-ci, on va jusqu'à la province. Donc, c'est la province qui est devenue la circonscription électorale. C'est pour dire qu'on va encore vers les acteurs. Cette année, pour une bonne conduite du processus, on a souhaité que les membres qui sont engagés dans la conduite prêtent serment, et ce qui a été fait, à travailler dans la transparence, l'intégrité, et puis bon, ça rassure tout un chacun que bon, cette année au moins, on a des personnes sûres qui vont nous accompagner, et qui vont conduire le processus, sous bien sûr la surveillance de la justice qui est là, qui veille sur tout ce que nous allons faire.
Des innovations bien accueillies par ces derniers. Seydou Kassamba, président du syndicat des propriétaires de Ben.
Les innovations étaient vraiment à la hauteur. Et quand ils ont quitté des 151, même qu'on cherchait à aller à 170, ça veut dire qu'il y a une évolution. Voilà, sur ce, vraiment, on les félicite. Et j'ai senti tous les acteurs dans les domaines des activités privées du Burkina ont été touchés.
Cette session d'information a été l'occasion pour la Chambre du commerce de rappeler le rôle d'un élu consulaire, Bena Zuguri.
C'est vrai que jusqu'à présent, certains ne comprennent pas le rôle de l'élu consulaire. Pas pour avoir de l'argent, non. Ils ne sont pas payés, c'est du bénévolat qu'on fait. Donc il faut que les gens intègrent ça dans leur conception, que l'élu consulaire n'est pas là pour leur donner de l'argent. Et il faut véritablement qu'on accepte de les accompagner, faciliter le travail à ces élus, pour que véritablement notre économie puisse en bénéficier.
Après Ouagadougou et Bobo Dioulasso, cette session d'information se poursuivra dans les autres provinces. Les dossiers de candidature sont recevables à la délégation consulaire des Hauts-Bassins du 6 au 20 octobre prochain. Antoine Boni, Bobo Dioulasso, Radio Omega.
Et on revient à Ouagadougou pour parler apaisement du climat social. Le gouvernement reprend longue avec les syndicats des travailleurs après 4 ans de suspension. Le dialogue a été entamé ce lundi matin pour 5 jours et le top départ a été donné par le chef du gouvernement à Ouagadougou. Selon lui, ce cadre ne doit pas être l'ultime recours pour des solutions aux préoccupations des travailleurs. Il doit plutôt fédérer les efforts déployés au niveau sectoriel à travers des échanges permanents. Christophe Dabireux est au micro de Momoni Yaro.
Les travailleurs ont des préoccupations. Le président du mois de l'UAS a posé ces différentes préoccupations, c'est tout à fait normal. Il appartient au gouvernement de prendre en charge l'ensemble de ses préoccupations, de discuter de façon franche avec les partenaires sociaux, de dire ce qui est possible pour que nous nous entendions sur la manière d'apporter les réponses appropriées à ces différentes préoccupations. La rencontre gouvernement-syndicat ne doit pas être une fin à soi. Le dialogue social doit être permanent dans les différents secteurs d'activité de notre pays. Les membres du gouvernement qui ont un certain nombre de syndicats dans leur secteur doivent pouvoir maintenir le contact de façon permanente, discuter avec les syndicats de leur secteur, apporter les réponses appropriées aux préoccupations des syndicats de leur secteur, de manière à ce que nous puissions déjà tapisser le monde du dialogue social à la base et ensuite, quand il y a des questions qui dépassent le niveau sectoriel, qui nécessitent une intervention au niveau national, que le Premier ministre puisse s'en saisir ou alors que le président du FASO puisse s'en saisir et donner les orientations pour que nous puissions régler ces questions-là et créer un climat apaisé propice à la production et à la productivité des travailleurs de notre pays.
En République démocratique du Congo, ça grogne dans le secteur de la santé. Les médecins du secteur public durcissent le ton. À partir de ce mardi 20 juillet, ils vont arrêter toute prise en charge des urgences dans les institutions sanitaires publiques. Les syndicats de médecins décident de passer à la vitesse supérieure après avoir constaté ce qu'ils qualifient d'échec des négociations engagées avec le gouvernement. Place à présent à l'invité du jour.
L'invité du jour.
L'invité du jour.
Aujourd'hui, les musulmans célèbrent la fête de la Tabaski. Que signifie l'Aïd el-Kébir pour un musulman qui doit sacrifier une bête? Élément des réponses avec notre invité du jour, Imam Ismaël Tiendrebego, imam au siècle d'études de recherche et de formation islamique, Serfi. Il répond aux questions de Hamidou Diallo.
Bonjour Imam Tiendrebego.
Bonjour.
Imam Tiendrebego, donnez-nous la signification de Eid al-Kabir ou la Tabaski pour un musulman.
Eid al-Kabir, ça veut dire le grand sacrifice en fait. C'est une fête à l'occasion de laquelle nous sacrifions un animal, un mouton, une chèvre, un bœuf, un chameau. Et pour rappeler le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam, quand il s'est vu en rêve en train d'égorger son enfant et qu'il a rendu véridique ce rêve-là. Au moment où il allait passer à l'acte, Dieu a racheté la vie de son enfant Ismaïl par un bélier considérable, et c'est à l'honneur de ce monothéisme et ce monothéiste-là que nous refaisons en fait l'acte de sacrifice.
À quel moment doit-on sacrifier la bête?
La bête doit être sacrifiée après la prière de la fête, pas avant. Et normalement, cela doit se faire après que l'imam a sacrifié lui-même sa bête. Si l'imam n'en a pas, on va considérer juste le temps nécessaire à cela juste après la fin du sermon. Donc à peu près 5-10 minutes maximum. Le temps que les gens arrivent à la maison, ils pourront bien évidemment sacrifier leurs animaux.
Quelles sont les bêtes autorisées pour le sacrifice?
La bête autorisée, d'abord, c'est comme je l'ai dit, c'est le mouton ou la chèvre de 6 mois minimum en âge, qui n'est pas une infirmité prononcée. Donc elle ne doit pas avoir une corne cassée, elle ne doit pas être éborgnée, elle ne doit pas avoir la patte cassée non plus. Donc elle ne doit pas être très chétive, elle ne doit pas être malade à vue d'œil. Et pour ce qui est aussi de grands ruminants comme le bœuf, eh bien il est possible également, lorsque l'animal a atteint au moins un an, certains diront deux ans, mais un an c'est le minimum, pour égorger un bœuf ou pour égorger un chameau. Voilà. Donc pour le chameau et le bœuf, il est loisible aux gens en fait de se mettre à plusieurs pour égorger un seul animal, mais pour le mouton, l'égorgement doit se faire au nom d'une seule personne.
Imam, qui doit sacrifier une bête?
Toute personne musulmane qui a les moyens d'acheter la bête normalement devrait sacrifier la bête. Donc aussi bien la femme que l'homme. Donc islamiquement, rien n'interdit à la femme d'égorger elle-même son animal, c'est pas une interdiction. Maintenant, si pour des raisons d'émotion elle ne peut pas le faire, elle peut demander à quelqu'un d'égorger en son nom, et là on va lui demander d'assister, et si elle le peut toujours d'un point de vue émotionnel, à l'égorgement de l'animal, qui sera divisé pour être donné pour partie aux indigents et aux pauvres, notamment aux personnes déplacées internes actuellement que nous avons, qui ont droit à notre solidarité de tous les jours et spécialement en ce jour de fête-là. Ensuite, nos voisins, nos amis, et bien évidemment une partie sera réservée intérêt aussi pour la famille, Inch'Allah.
De quoi doit être meublée la journée d'un fidèle musulman, ce grand jour?
Pour ce grand jour, déjà, c'est s'apprêter pour aller à l'heure de la prière. Donc, c'est porter ses plus beaux habits. On n'a pas dit forcément des habits neufs, ses plus beaux habits. Les meilleurs habits sont les habits déjà qui sont propres. Et parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, détestait l'odeur de l'aisselle ou de la mauvaise haleine qui peut indisposer les autres quand on va à l'heure de la prière. Donc, on se met sur son 31, entre guillemets, on se lave bien évidemment avant, on y va par un chemin, on revient de l'heure de la prière par un autre, et on doit multiplier les formules de glorification de Dieu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Et cela signifie pureté à Dieu, louange à Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu, Dieu est le plus grand. Donc, on doit répéter ces formules-là de façon isolée par rapport aux heures de prière, mais également après les prières que nous allons effectuer, les prières obligatoires notamment, et cela pendant les 4 jours, c'est-à-dire le jour de la fête, plus les 3 jours qui vont suivre le jour de la fête, et ça va s'arrêter le 4e jour à la prière de Asr, Inch'Allah.
Aujourd'hui, c'est Eid el-Kabir. Quel appel avez-vous à lancer aux fidèles musulmans?
L'appel en ce jour de commémoration, déjà, c'est de retourner sur les pas d'Ibrahim alayhi salam à travers notre monothéisme pur, et c'est également de faire preuve de miséricorde vis-à-vis de ceux qui sont avec nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: faites miséricorde à ceux qui sont sur terre afin que celui qui est là-haut vous fasse miséricorde. C'est un jour de générosité, c'est un jour de partage, et l'islam nous interdit en ce jour-là le gaspillage, parce que le gaspilleur sont les frères du diable, et le diable est vis-à-vis de son seigneur un grand négateur. Donc nous ne devons pas exagérer, nous ne devons pas jeter du repas à la poubelle, nous ne devons pas manger plus que de besoin, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le pire des récipients que l'homme puisse remplir, c'est son ventre. Voilà, donc on ne doit pas manger exagérément, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté à laisser une partie pour notre nourriture, une partie pour l'eau que nous allons boire, et une partie pour respirer, donc pour dire qu'on ne se gave pas en dehors de ce jour et pour tous les jours, et spécialement ce jour où la nourriture sera servie à profusion. C'est aussi, comme je l'ai dit, d'inviter les uns et les autres, de se rendre visite et de se féliciter, parce que c'est la fin en fait de l'année musulmane. Donc si vous voulez, nous sommes à la nouvelle année égérienne, et c'est une occasion de se féliciter, de se faire les vœux, Inch'Allah.
Imam Bebo, merci.
Merci beaucoup.
12 heures passées de bientôt 39 minutes sur les ondes de la radio Omega. C'est la fin de ce journal en mise en onde par Fidèle Compaoré. Bonne fête de la Tabaski à tous les fidèles musulmans, et une pensée spéciale à ceux des régions en proie à l'insécurité.
Radio Omega, l'info en direct.